La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On est toujours lundi 28 septembre, c'est la deuxième partie de cette midinale. La partie s'informer autrement. Et on va commencer avec Steph qui va nous parler de littérature américaine.
Oui, c'est ça. Mais je vais faire un petit démarrage à la pierre. donc je vais faire une...
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais faire une petite digression. En fait, j'avais envisagé, j'avais envisagé de parler ce matin d'Emmanuel Carrère. Et de son... Donc pas du tout de la littérature américaine. Hein. Et de son dernier livre qui s'appelle « Yoga ». Mais aussi des précédents livres, hein, Limonov, D'autres vies que la mienne, un roman russe. Et puis je me suis rendu compte hier soir, il est jamais trop tard quoi, que ce serait sans doute malvenu de venir ici exposer mon admiration pour un écrivain de droite, narcissique, qui passe son temps à se citer lui-même, ce qui est toujours mieux que de citer Finkielkraut ou Renaud Camus. Voilà, parce que c'est ça, il termine... le livre Yoga par trois pages consacrées à Finkielkraut et Renaud Camus, ce qui est quand même un peu dommage parce que, alors pas du tout pour en dire forcément du bien, hein, mais quand même, il cite la prose. Et du coup, c'est con parce que toute la...
Je t'avais dit que je le sentais pas, ce
gars. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Toute la partie d'avant qui était très belle, tout ça, et ben ça m'a laissé comme un petit goût de pourri. Voilà. Donc je me suis dit, soyons sérieux, hop, on ne parle plus d'Emmanuel Carrère, on en reparlera dans un mois quand il aura eu le prix Goncourt, si vous voulez bien. Mais en attendant, on va vraiment parler de littérature américaine et d'un auteur qui vient de sortir un livre là. Et cet auteur s'appelle Colson Whitehead. Et du coup, je vais parler de deux livres ce matin. Ce sont deux livres qu'il a publiés coup sur coup. Donc, Underground... Alors, excuse my English. Underground Railroad, qui est sorti en 2017, et celui qui vient juste de sortir, qui s'appelle Nickel Boys. Juste à noter, ces deux livres-là ont reçu le prix Pulitzer aux États-Unis, coup sur coup, donc. La fois quand c'était arrivé avant, c'était Faulkner. L'histoire littéraire se souviendra de Faulkner. Sans doute de Colson Whitehead, peut-être plus qu'Emmanuel Carrère, bref. Les deux livres de Colson Whitehead, ils vont... parler tous les deux de la condition qui est faite aux Noirs en Amérique. Le premier, donc Underground Railroad, se passe au milieu du 19e siècle, donc entre 1840 et 1860. Et le second, Nickel Boys, lui, c'est au milieu du 20e siècle, plutôt dans les années 60. Le premier raconte la fuite d'une esclave d'une plantation de Géorgie, et sa lente remontée, ou l'espoir de sa lente remontée vers les États du Nord. Et ça raconte cette fuite et de l'aide qu'elle va pouvoir avoir, qu'elle va pouvoir rencontrer tout au long de son parcours. Et elle va bénéficier de l'aide d'un truc, moi je ne savais pas que ça existait. Ça s'appelle l'Underground Railway. Et en fait, c'était un réseau d'esclaves enfuis, d'esclaves affranchis, de noirs nés libres, mais aussi d'abolitionnistes aux États-Unis, qui, en utilisant toujours la métaphore ferroviaire, avaient constitué un parcours pour permettre aux esclaves en fuite de s'échapper, vraiment des États esclavagistes. Et du coup, ils parlaient de gares, ils parlaient de rails, de parcours. En réalité, ça se faisait pas, en train. Ça se faisait souvent dans des petits chariots, à pied. Et en fait, il y avait des gares, ce qu'ils appelaient les gares, les carrefours. C'était des endroits où ils pouvaient se cacher, se reposer, en général la journée, puisqu'il fuyait la nuit. Les conditions de fuite étaient évidemment atroces. Métaphoriquement, Colson Whitehead va lui inventer l'Underground Railroad, un chemin de fer souterrain, comme si ces gens avaient pu creuser dans les entrailles de la terre américaine. Et c'est hyper violent ce qu'il nous raconte, mais c'est aussi l'histoire de cette entraide globalement entre personnes noires. Mais il y a eu aussi des blancs abolitionnistes qui sont venus aider. Il y a deux personnages vraiment principaux dans ce livre. L'esclave en fuite qui s'appelle Cora et un type qui s'appelle Ridgway et qui est lui un chasseur d'esclaves. Et en fait, il y avait un peu partout entre les États esclavagistes des accords et du coup des chasseurs d'esclaves et avec des primes colossales pour pouvoir ramener les esclaves dans les plantations, et souvent, prime colossale, juste pour l'exemple, parce que bien souvent, quand ils revenaient à la plantation, ils étaient sauvagement exécutés. Et c'est un livre assez incroyable, le personnage de Cora, c'est un personnage magnifique, donc elle est née à la plantation. Son histoire, c'est une histoire un peu mythique, sa mère, Mabel, est la seule esclave à avoir réussi à s'échapper de la plantation dans laquelle elle est née. Et on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Mais il y a comme tout un truc de mythe autour de ce personnage de Cora, qui, si sa mère a réussi, alors elle peut porter chance sur une tentative d'évasion. La réalité, c'est surtout qu'elle est extrêmement solide et déterminée, qu'elle a subi des violences sans nom toute son existence. Et que quand elle accepte ce projet de s'enfuir, ça va la transformer. Il y a un regard aussi de ce personnage sur l'ensemble des Blancs qui est... alors, évidemment, la plupart de ceux qu'elle a rencontrés et qu'elle connaît sont des personnes atroces. Mais aussi, il y a un regard sur ceux qui... par bonne conscience, voudrait aider, et qui du coup ne la voit que comme une petite chose noire. Et c'est toute l'histoire de ce regard qu'elle va se construire, de cette conscience qu'elle va avoir au fur et à mesure de sa fuite. C'est un livre absolument magnifique. Donc ça, c'était le premier. Il est dur, il est d'une violence pas croyable. Et puis... là, Colson Whitehead, il vient de sortir un livre là qui s'appelle Nickel Boys. Et celui-là, il est presque pire. Il est beaucoup plus court. L'écriture est beaucoup plus directe. Et le livre raconte l'histoire des garçons de Nickel. Et Nickel, c'est une maison de correction pour mineurs, donc dans l'Amérique des années 60. Alors pour mineurs blancs et pour mineurs noirs. Ça se passe dans un très grand établissement avec une colline. Les blancs sont d'un côté, les noirs de l'autre. Évidemment, c'est absolument pas les mêmes sévices qu'ils subissent. C'est pas les mêmes peines non plus pour lesquelles ils sont condamnés. Et c'est à deux temps différents. C'est l'histoire se passe dans Nickel dans les années 60, et puis avec 40 ans de recul, quelqu'un qui découvre qu'il ne pourra jamais continuer à vivre sans retourner à Nickel, sans se confronter à ce qu'il a vécu. Le livre commence par une phrase qui dit « Même mort, les garçons à Nickel étaient un problème ». Et en fait, le livre de Colson Whitehead, les personnages sont fictifs, mais ils se basent sur une histoire vraie et sur des recherches d'un journaliste et d'étudiants en archéologie. Ils ont découvert en Floride, dans une école similaire, ce qu'ils appelaient une école, mais qui était une maison de correction, un cimetière clandestin. Et petit à petit, il y a eu des fouilles qui ont eu lieu, ils ont sorti les corps et ils se sont rendus compte de l'horreur de ce qui se passait au sein de ces maisons de correction. Et voilà, c'est extrêmement violent. Et là, j'ai le livre sous la main, et du coup, je me disais que le mieux, c'était d'en lire quelques passages. Il existait quatre manières de sortir de Nickel. 1. Purger sa peine. Habituellement, celle-ci était comprise entre 6 mois et 2 ans. Mais la direction avait le pouvoir discrétionnaire d'accorder une libération anticipée. Cette libération pouvait être motivée par la conduite exemplaire d'un garçon, ayant accumulé suffisamment de bons points pour être promu as. Il était alors remis à sa famille, qui se réjouissait de le retrouver ou bien grimaçait en voyant son visage approcher, début du compte à rebours avant la prochaine calamité. Ça, c'était pour ceux qui avaient une famille. Pour les autres, la protection de l'enfance prévoyait diverses solutions d'accueil, certaines plus confortables que d'autres. On pouvait aussi purger sa peine en atteignant la limite d'âge. L'école mettait les garçons à la porte le jour de leur 18e anniversaire, avec une poignée de main rapide et un peu d'argent de poche. Libres de rentrer chez eux ou d'aller où bon leur semblait dans un monde indifférent, engagés sur une des voies les plus difficiles qui soient. Les garçons arrivaient diversement abîmés à Nickel, où ils écopaient de nouvelles meurtrissures. Souvent, des écarts plus graves et des institutions plus dures les attendaient. Que ce soit avant, pendant ou après, s'il fallait définir leur trajectoire générale, les garçons de Nickel étaient baisés. 2. Une intervention du tribunal. L'événement magique. Une tante perdue de vue ou un cousin plus âgé se matérialisait pour relever l'état de sa tutelle. L'avocat que maman chérie avait engagé, si elle en avait les moyens, sollicitait une grâce en vertu de circonstances nouvelles. Maintenant que son père est parti, il faut quelqu'un pour faire bouillir la marmite. Ou bien le juge, un nouveau ou le même pisse-froid, pouvait agir pour des raisons n'appartenant qu'à lui. Une somme d'argent qui avait changé de main, par exemple. Sauf que s'il y avait eu de quoi payer un pot de vin, le garçon n'aurait jamais été envoyé à Nickel. Toutefois, la justice étant capricieuse et corrompue de bien des manières, on en avait déjà vu plusieurs sortir grâce à ce qui passait pour une intervention divine. 3. La mort. Éventuellement de cause naturelle. Quoique aidée par des conditions sanitaires déplorables, la malnutrition et une impitoyable kyrielle de négligence. Durant l'été 45, un jeune garçon fit un arrêt cardiaque alors qu'il était enfermé dans une cage à sueur, une punition courante à l'époque, et le médecin légiste qui l'examina conclut à une mort naturelle. Imaginez-vous cuire dans une boîte de métal jusqu'au moment où votre cœur lâche, à bout de force. La grippe, la tuberculose et la pneumonie prélevèrent leur tribut, de même que les accidents, les noyades et les chutes. L'incendie de 1921 fit 23 victimes. La moitié des issues du dortoir étaient condamnées et les deux garçons confinés dans des cellules d'isolement du deuxième étage n'avaient aucun moyen de s'échapper. Les corps étaient enterrés à Boot Hill ou remis aux familles. Certaines morts étaient plus infâmes que d'autres. Il n'y avait qu'à consulter les archives de l'école, si incomplètes soient-elles. Choc fatal, tir de fusil de chasse. Au cours de la première moitié du XXe siècle, plusieurs garçons dont on louait les services à des familles du coin furent retrouvés sans vie. Des élèves mouraient lors de sorties non autorisées. 2 furent écrasés par des camions. Il n'y eut jamais d'enquête. Les archéologues de l'université de South Florida remarquèrent que le taux de mortalité chez les fuyards récidivistes était plus élevé que la moyenne. On ne peut que spéculer. Quant au cimetière clandestin, il garda ses mystères. 4, enfin. On pouvait s'enfuir, tenter le coup et voir ce qui se passe. Je vais lire un passage un peu plus loin. Leur père leur avait appris à mettre un esclave au pas, leur avait transmis cet héritage de brutalité. Arrachez-le à sa famille, fouettez-le, jusqu'à ce qu'il oublie tout sauf le fouet. Enchaînez-le pour qu'il ne connaisse plus rien d'autre que les chaînes. Un séjour dans une cage, avec le soleil qui brûle le cerveau, c'est excellent pour mater un mal noir. De même qu'une cellule sans lumière, une chambre au milieu de l'obscurité, hors du temps. Après la guerre de sécession, lorsque l'amende de $5 sanctionnant les infractions définies par les lois Jim Crow, vagabondage, changement d'employeur sans autorisation, contact présomptueux, pour ne citer que celle-là, poussa des hommes et des femmes noirs dans les affres de la servitude, dans les affres de la servitude pour dette. Les fils blancs se remémorèrent les traditions familiales. Ils creusèrent des fosses, façonnèrent des barreaux, interdire la lumière nourricière du soleil. La Florida Industrial School for Boys était ouverte depuis 6 mois à peine, quand les débarras du deuxième étage furent convertis en cellules d'isolement. Un des hommes à tout faire passa de dortoir en dortoir pour fixer des écrous aux portes. Voilà. Les cellules continuèrent à être utilisées même après l'incendie de 1921, lequel causa la mort de 2 garçons qui y étaient enfermés. Les fils ne dérogeaient pas aux méthodes de leur père. Et le personnage principal de cette histoire donc, s'appelle Elwood. Et Elwood, il se retrouve là parce qu'il a été pris en stop pour aller à la fac par un type qui a, pour aller à son premier jour de fac, par un type qui a volé une voiture. Et Elwood, c'est quelqu'un de très calme, de très posé, de très instruit aussi. Et c'est quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup et qui écoute beaucoup les discours de Martin Luther King. Et il y a un passage, un dernier passage que je vais lire. Et c'est Elwood, on y parle de Elwood. Il pensa longtemps à la lettre que Martin Luther King avait écrite dans sa cellule de la prison de Birmingham. Cet appel puissant qu'il avait composé derrière les barreaux. Une chose donnait naissance à l'autre, sans cellule, pas d'exhortation à l'action. Elwood n'avait ni papier ni crayon, rien que des murs. Et il était à court de belles pensées, sans même parler de sagesse ou d'éloquence. Depuis sa naissance, le monde lui murmurait des règles qu'il refusait d'écouter, préférant suivre un ordre supérieur. Et le monde continuait de l'instruire. « Interdis-toi d'aimer quiconque, car les gens disparaissent. N'accorde pas ta confiance, car elle sera trahie. N'ouvre pas la bouche, car on te la fermera. » Mais il continuait à entendre ces impératifs plus nobles. « Aime, et cet amour te sera rendu. Crois dans la voie de la justice, car il te mènera à la délivrance. Bats-toi, et les choses changeront. » Il n'avait jamais écouté, jamais vu, ce qui se trouvait juste sous son nez. Et voilà qu'il se retrouvait purement et simplement extrait du monde. Les seules voix qui lui parvenaient étaient celles des garçons au-dessus, leurs cris, leurs rires et leurs hurlements apeurés. Comme si lui flottait dans un paradis amer. Une prison à l'intérieur d'une prison. Durant ces heures interminables, il se débattait avec l'équation du révérend King. Jetez-nous en prison, nous continuerons à vous aimer. Mais ne vous y trompez pas. Par notre capacité à souffrir, nous vous aurons à l'usure, et un jour nous gagnerons notre liberté. Non seulement nous gagnerons la liberté pour nous-mêmes, mais ce faisant, nous en appellerons à votre cœur et à votre conscience, et ainsi, nous vous gagnerons aussi, et notre victoire sera double. Non, décidément, il n'arrivait pas à franchir le pas de l'amour. Il ne comprenait pas plus le point de départ de cette proposition que le désir de l'accomplir.
Merci. Pas de réaction particulière.
Tu peux nous redire les titres des livres ?
Ouais, celui qui parle d'esclavage s'appelle Underground Railroad, voilà. Et celui dans la prison pour mineurs s'appelle Nickel Boys. C'est Colson Whitehead.
Bien. Alors, moi, je voulais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu. Quoi, tout le monde fait ça à la radio, non ?
Non, pas non. Nous, normalement.
Il y a un livre qui est sorti, là, ce mois de septembre, qui s'appelle « Un désir de communisme », qui a été écrit par Judith Bernard et Bernard Friot, aux éditions textuelles. Je ne l'ai pas lu, mais par contre, j'ai regardé une vidéo... Une conférence ou conférence débat au lieu dit à Paris. Cette conférence, elle a eu lieu le 8 septembre 2020. Et du coup, j'en ai extrait 10 minutes qu'on va écouter là. C'est Friot qui cause. Et l'idée, c'est de causer aussi un petit peu. J'expliquerai après pourquoi moi j'ai sélectionné ça et est-ce que ça vous parle ou pas ?
Au fondement du pouvoir de la bourgeoisie, il y a son pouvoir sur le travail. C'est finalement elle qui organise la façon dont nous constituons notre monde dans une négociation qui n'en est pas une, parce que le capitalisme ne négocie pas avec la nature, il la détruit, c'est autre chose. Mais je veux dire, dans notre rapport au reste du vivant, dans nos rapports entre nous, nous constituons notre monde comme espèce. Et dans cette constitution-là, alors il y a effectivement des activités privées, mais il y a du travail, c'est-à-dire quelque chose qui, au terme d'une délibération qui peut être totalement non démocratique, dans le cas du capitalisme, c'est totalement non démocratique, décide de ce qui vaut dans ce que nous faisons. Bien. Et tant que la bourgeoisie capitaliste détient les clés du travail, elle tient en otage la société, évidemment. Hein. Et on voit bien que les victoires électorales, par exemple, ou des affirmations dans l'espace public, du genre Nuit debout, ou les ronds-points des Gilets jaunes, ou des manifestations dans l'espace public, quelle que soit leur force, tant les victoires électorales que ces manifestations-là, ces expressions-là, ces prises de pouvoir dans ces lieux publics échouent tant que nos adversaires tiennent la production. Et donc, pour moi, le cœur de la lutte de classe, c'est la prise du pouvoir sur le travail. Alors, la prise du pouvoir sur le travail, beaucoup plus possible aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple, hein, pour la raison que j'ai dit dès le départ, c'est qu'il y a maintenant un doute majoritaire sur la légitimité du travail tel que l'organise la bourgeoisie. Et le pas qui n'est pas encore fait, c'est d'aller au-delà de la sécession. Plus exactement, d'accompagner la sécession, qui est micro, de conquête macro. Donc, il y a actuellement un mouvement de sécession massif. Il y a toute une part, de, non seulement de la jeunesse, mais des travailleurs qui n'inscrivent pas leur travail dans les institutions capitalistes ou qui essayent de ne pas l'inscrire. Et c'est la source, pour moi, d'un grand espoir. Hein. Tant qu'il y a une adhésion à la façon dont nos adversaires organisent le travail, on ne peut pas avancer beaucoup. Hein. On peut conquérir des choses, hein, mais je cite souvent cet exemple au demeurant récent dans mon expérience, mais enfin qui m'a fait réfléchir. Dans un colloque à Toulon, un ouvrier de l'Arsenal, un retraité, je le mets dans le bouquin d'ailleurs, je crois, hein, un retraité éminemment respectable, quelqu'un qui a un retraité de CGT, qui s'est battu toute sa vie, enfin pour lequel c'est vraiment des militants pour lesquels j'ai le plus grand respect, hein, qui nous dit, moi, toute ma vie, j'ai distribué des tracts disant la défense nationale, ça doit produire des armes pour la défense nationale, point. Évidemment, je produisais des exocètes, voyez. C'est ce « évidemment-là » qui est tragique, vous voyez. C'est-à-dire d'accepter de faire ce contre quoi on milite. Tant que nous acceptons que notre travail soit contradictoire avec ce pourquoi nous militons, nous ne pouvons être que dans la défaite. Donc, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont dans la sécession, au sens où, à côté des grandes organisations capitalistes du travail, ils cherchent à créer des librairies indépendantes, des tiers-lieux, enfin, on peut multiplier, enfin, de l'agro non-business, de l'énergie, du logiciel libre, enfin, c'est infini aujourd'hui et c'est magnifique. Hein. Là, tout l'enjeu, c'est que cette détermination à produire autrement, ce qui est pour moi le cœur de la sortie du capitalisme, sorte de la marginalité ou de la récupération possible. Et pour cela, il faut des institutions macro, celles que les communistes ont été capables de créer. Je parle du statut de la fonction publique, du régime général, sécurité sociale, etc. etc. Et c'est pour cela que tu y faisais allusion. Nous réfléchissons à Réseau Salariat, et pas tout seul, et avec d'autres aussi, à mettre en sécurité sociale toutes les productions. On a une expérience magnifique. Hein. Et si elle est l'objet d'une telle détermination à la détruire depuis 40 ans, c'est parce qu'elle est magnifique. C'est notre force, c'est qu'on fait le boulot. Il n'y a pas de valeur économique sans valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est nous qui la produisons. C'est pour ça que je milite pour des grèves qui ne soient pas l'arrêt de la production, mais qui soient la décision de produire en envoyant aux plots les protocoles, en envoyant aux plots les directives et directions, en produisant comme nous l'entendons. C'est ça la grève qu'il faut maintenant faire maintenant. Produire comme nous l'entendons. Notre seule force, c'est que c'est nous qui faisons le boulot. Et que, quel que soit le baratin sur le capitalisme financier qui arrivera à faire des petits tout seul, c'est pas vrai. Et on l'a vu en 2007, la fiction du capital fictif. On a bien vu ce que c'est. Notre force collective, c'est le travail. Et c'est pour cela que ça doit être le cœur de notre mobilisation. Quand dans une analyse, le travail est secondaire, qu'on est surtout sur la monnaie, sur la finance, etc., on ne voit pas la puissance d'agir des travailleurs. Donc, à partir du moment où vous ne mettez pas le travail au cœur de votre analyse, vous sous-estimez les effets révolutionnaires d'une prise de pouvoir sur le travail qui n'attend pas le préalable de la prise de pouvoir sur l'État. Certes, pour prendre le pouvoir sur le travail, dans la sécession et dans la conquête d'institutions macroéconomiques qui sortent la sécession de la marginalité ou de la récupération, qui sont les deux périls de toute sécession. Cette dissidence, il s'agit de l'armée avec des institutions macro. Et là encore, il y a une sous-estimation de l'alternative tels que les travailleurs organisés sont en capacité et ont déjà démontré la capacité de la poser. Et du coup, on est dans l'attente. C'est demain. Et c'est là que moi, comme communiste et comme chrétien, je dis ras-le-bol, d'accord ? Il ne se passera rien demain. Il n'y a pas de communisme qui ne soit déjà là. S'il n'y a pas du déjà-là, il n'y a pas de communisme. Le communisme demain, ça n'existe pas. C'est ce rapport au présent qu'il faut être capable de vivre et de théoriser, hein, d'en sortir avec l'attente du futur. Nous avons besoin d'institutions. Et je ne suis pas plus malin que les copains, j'appartiens à des institutions. J'inscris mon action dans des institutions dans lesquelles je ne crois pas. Pas du tout. C'est ce qui me rend actif et ce qui me rend amoureux de ces institutions. Parce que j'y crois pas. Si j'y croyais, j'aurais l'occasion en permanence de dire « mais c'est de la merde ». D'accord. La question, c'est sur quoi nous appuyons-nous pour conquérir le rapport de force qui viendra à bout de leur désaccord. Est-ce qu'on s'appuie sur la prise du pouvoir d'État ou sur la prise du pouvoir sur le travail ? C'est ça le point. C'est ça le déplacement qu'il s'agit d'opérer, à mon sens. Au café de la banque, ça ne s'invente pas, d'accord. C'était le café de la banque. En face de Asset Management BNP, une espèce de grosse pâtisserie, une ancienne chapelle peut-être, transformée en le lieu des grosses saloperies d'asset management que fait la BNP. Voilà. Quand vous avez 20 jeunes qui ont fait 10 ans de finance, qui ont été essorés, qui ont été des gagneurs à la City, et qui me font venir parce qu'ils sont... Ils ont perdu toute confiance dans ce à quoi ils ont mis leur... Mais enfin, il y a une classe révolutionnaire, bien sûr. Elle n'a pas la forme que nous avons connue. Et alors ? On ne va pas faire des anciens combattants du congrès de 76. C'est formidable, enfin. Tu imagines un cadre des années 70 qui... Mais il s'adhérait à l'entreprise complètement. Aujourd'hui, tu as des cadres de France Télécom qui te demandent de venir, qui disent mais enfin on a perdu toute technicité, on passe notre temps à bavasser pour des contrats de sous-traitants, on ne sait plus rien faire, c'est fini. Alors qu'on a une formation d'ingénieur, ils en ont ras le bol. Donc, alors, on est dans, dans quelque chose qui doit maintenant se construire positivement, je suis entièrement d'accord. Mais il y a, encore une fois, au cœur de mon optimisme, il y a la perte d'hégémonie de la classe bourgeoise sur le travail. Pour moi, elle est en train de perdre son hégémonie. Pour des raisons écologiques, par exemple, mais pour des raisons aussi anthropologiques de travailleurs qui ne s'y retrouvent plus dans le travail ou le non-travail qu'ils sont en train de faire.
Bon, voilà, donc Bernard est en forme. Et... ouais. Alors, pourquoi moi, je trouve intéressant ce passage ? En gros, déjà parce que ça me parle personnellement, quand il y a le côté sécession, le fait de quitter son boulot. Je crois que c'est un truc qui peut parler d'ailleurs autour de la table, je pense. Et moi, dans mon histoire personnelle, c'est... je viens de nouveau de quitter mon travail il y a très peu de temps, mon emploi qui était en gros une sorte de grand écart un peu schizophrène entre mon militantisme et ce qu'on me demandait de faire au travail. Travailler dans l'insertion professionnelle et militer pour la fin du marché du travail, c'est un petit peu contradictoire, donc c'est pas évident. Et ça m'a aussi fait penser à une autre expérience que j'ai eue, qui est au PL Guérin. Et en fait, quand il dit... Alors, je remets le contexte du donc le PL Guérin, c'est une maison de quartier ici dans le quartier, pas très très loin du studio à Brest. Et en gros, fin 2015, la mairie de Brest a annoncé des baisses de subventions à l'ensemble des 23 maisons de quartier, enfin à l'ensemble des associations d'ailleurs qui recevaient des sous de la ville. Et donc changement des conventions qui étaient jusque-là établies entre la ville de Brest et les 23 associations de quartier de Brest. Au départ, il y a en gros les 23 associations de quartier se mettent ensemble et disent « Ah, il est hors de question que ça se fasse », etc. Très vite, elle se délite et chacun essaye de conserver ses micro-privilèges qu'il avait à l'intérieur. Et finalement, au lieu de lutter à 23, ils se mettent à lutter ils se divisent déjà en 3. Donc les centres sociaux vont en même temps, les patronages laïcs vont en même temps, les maisons de la jeunesse et maisons de quartier vont en même temps. Donc on imagine bien que déjà c'est... Déjà, c'était mort, ça a duré une bonne année, voire un peu plus, de négociations qui ont fini par être de la petite défense de certains petits intérêts, voilà. Et donc, la dimension, en tout cas, de convention, vraiment ceux qui portaient sur des moyens, ça a été entériné, ça n'existe plus donc, dans cette convention. Et on est sur des conventions d'objectifs avec des chiffres à l'appui, en gros, pour être très... Et en fait, là, ça m'a refait penser à ça parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup choquée, en fait, à l'époque. C'est le fait que, pour moi, ces 23 associations de quartier ne voyaient pas la puissance qu'ils avaient entre leurs mains. C'est-à-dire qu'en fait, ils font toute une série d'activités qui est de la délégation de services publics, donc de l'accueil de loisirs tous les mercredis et les vacances, du périscolaire pour beaucoup d'entre eux, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux, et toutes les activités de loisirs à pas cher, on va dire, en gros, pour tous les Brestoises et les Brestois et alentours. Et en fait, l'arrêt de leurs activités suffisait à ce que la ville de Brest dise « bon ben, oui, très bien, ok, on garde la même convention ». Ça suffisait, en fait. C'était... Et ça, moi, quand j'argumentais ça, dans ces réunions où il y avait toutes ces personnes, je voyais bien que c'était pas du tout pris au sérieux, pas du tout pris comme quelque chose de faisable, quelque chose de... Et là, je trouve que ça m'a refait penser à ça, parce que je pense que dans énormément de secteurs comme ça, on voit pas à quel point on peut être puissant en vrai, en fait. Et il y a l'intégration du discours, parce que là, c'était « Oui, mais les pauvres, la ville, en fait, c'est pas de leur faute, c'est parce que l'État leur donne moins, donc du coup, ils peuvent moins nous donner, nanananananan. » Enfin, tu vois, c'est toute une façon, en fait, d'accepter ce genre de choses. Et ouais, on voit pas la force qu'on pourrait, en fait, qu'on a réellement, en fait, qui est réellement là. Et réellement là, tout de suite, dans le présent. Et donc voilà, c'est pourquoi ça m'a fait, ça résonnait un peu en moi là, ce qu'il raconte. Et après, un autre truc, c'est que du coup, j'aime assez sa proposition de dire il faudrait arrêter de faire la grève, une grève qui serait donc l'arrêt de la production, mais plutôt de se dire que le mot d'ordre, en gros, c'est bah, faisons la grève, mais la grève, en fait, c'est on reste sur nos emplois et on produit exactement comme on voudrait produire, donc faire... Et ça, ça me semble super intéressant. Et je crois vraiment qu'en vrai, y a plein de choses qu'on ne pourra pas changer tant qu'on est en train de continuer à produire de manière capitaliste, en gros. Et en même temps, je trouve ça hyper dur, parce que pour prendre l'exemple de mon dernier boulot en date, dans ma boîte, j'ai du mal à envisager de réussir à faire passer ce mot d'ordre. Tu vois, on était donc une boîte dans la formation insertion professionnelle, 80 salariés, donc il y a quand même du monde, hein, donc potentiellement ça peut être une force aussi, mais à l'intérieur déjà il y a pas une personne syndiquée. Il y a comment dire, il y a pas de réflexion en interne, de lieu de discussion possible sur le sens du travail et comment on aimerait bien le faire. À la limite, il peut avoir des petites micro revendications sur, je sais pas, plus de congés ou des conneries d'avancement, je sais pas quoi, mais concrètement sur organiser ça. je me sentirais assez impuissante, en fait. Et donc, du coup, voilà, je trouve très intéressant sa proposition. Mais bon, je ne sais pas trop comment...
Ouais, parce que dans les deux exemples que tu donnes, pour moi, il y a aussi, comment dire, une sorte de trahison. Enfin, je ne sais pas, le mot est peut-être un peu fort, mais... des personnes qui sont délégataires de l'autorité ou de l'organisation, du pouvoir d'organisation, enfin voilà. Et c'est ben, dans le premier exemple avec les patronages laïques, au final, enfin, ou toutes les structures de quartier pour la jeunesse, c'est au final qui accepte, qui négocie avec la mairie, qui... à qui tu parles quand tu donnais tes exemples, c'est principalement des membres des conseils d'administration. Et donc, ce n'est pas les travailleuses, travailleurs qui produisent vraiment la valeur que tu évoquais, s'occuper des gamins, pour résumer. Et du coup, il y a une sorte de délégation de pouvoir quoi, à ces gens-là, les conseils d'administration. Enfin, ce n'est même pas forcément une délégation de pouvoir des personnes qui travaillent. Hein. C'est, de fait, c'est comme ça qu'est organisée une association classique. Quoi. Comme ça qu'elles sont toutes organisées, celles-là. Il y a même aussi au-dessus des histoires de fédération et tout, qui décident aussi. Et ben, pour moi, ça met une barrière quoi, dans ce... Quand tu parles, tu parles des personnes qui travaillent. C'est elles qui ont ce pouvoir d'arrêter de travailler ou de travailler autrement, mais au final il est délégué à des corps intermédiaires dont les enjeux, les intérêts sont pas les mêmes. Et au boulot, ben, c'est pareil quoi, c'est les cadres en gros qui représentent disons, les intérêts de l'entreprise ou les intérêts du management ou machin, et qui font que la plupart de ces décisions là elles sont déléguées de fait à des cadres quoi, qui vont pas, sauf exception, mettre en œuvre une puissance à s'organiser collectivement comme on veut et tout. Mmh. Dans une boîte privée, c'est encore plus évident que c'est pas les cadres qui vont organiser la puissance des personnes qui travaillent, quoi. Leur boulot, c'est plutôt d'organiser la puissance de la direction, du patron ou des actionnaires. Mmh.
Mais après, quand les gens se mettent en grève, c'est bien les travailleurs directement qui se mettent en grève. Donc,
C'est juste qu'il y a, il y a une tension, quoi, ouais, entre on ne passe pas directement des personnes qui travaillent à leur organisation, parce qu'il y a tout un petit management, quoi, autour, au-dessus, ouais, à côté, je sais pas.
Ouais, par rapport à ça, après, c'est vrai que déjà, il y a un affaiblissement du syndicalisme avec pas beaucoup de syndiqués et souvent des bureaucraties syndicales qui négocient au rabais en haut lieu. Donc, on avait pu voir fin 2018, notamment par exemple, les routiers. Donc, je ne sais plus, je crois que c'était la CGT routier qui avait négocié un truc corporatiste, et donc du coup il n'y avait pas de stratégie sur l'ensemble des travailleurs, et donc ils auraient pu peser lourd dans le combat social de cette époque-là. Donc c'était fin 2018, en plus c'était en plein mouvement des Gilets jaunes. Après, sur ce que dit Friot sur la sécession, notamment aussi de cadres, et moi j'ai pu observer ça un peu, notamment dans les milieux militants type Youth for Climate et Extinction Rebellion. Alors j'aimerais partager son enthousiasme et j'aimerais qu'il me dise aussi, je parle amicalement, il n'y a pas de souci avec Bernard, je sais pas trop sur quoi il se base en fait pour affirmer, j'ai noté qu'il y a maintenant un doute majoritaire sur la légitimité du travail tel que l'organise la bourgeoisie. Voilà, déjà même pour avoir cet état de conscientisation et le formuler comme ça, ou bon, peut-être que plein de gens en ont marre aussi, c'est vrai, hein, de ce qu'ils font, de comment s'organise le travail, produire de la merde pour le capital, comme dirait Bernard. Mais de là à ce que cette base s'organise vraiment, en fait, il ne faut pas surestimer aussi les capacités d'auto-organisation, et c'est très compliqué. Et on peut voir que même dans les mouvements sociaux récents, on n'était pas très nombreux dans cette auto-organisation-là. Il faut discuter avec des gens, des syndicats, de la CGT, ici à Brest. Ils suivent les mots d'ordre, ils font leurs petites manifs. Il y avait quelques blocages, tout ça. Ils avaient tendance à rester un peu entre eux et à ne pas vouloir d'aide extérieure. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, l'atomisation, en fait, aussi, quand même, du camp des travailleurs.
Après, moi, je crois qu'il y a quand même un vrai mouvement de remise en cause de l'emploi, on va dire, tel qu'il est aujourd'hui, qui avait beaucoup moins il y a 30 ans, on va dire. Et on peut le voir, enfin, il y a un vrai truc générationnel. Je pense à mes parents, par exemple, qui sont pas du tout dans ces revendications de sens au niveau du travail, mais qui seraient plutôt sur des défenses ou je sais pas quoi. Et peut-être que le fait aussi que les syndicats aillent mal, et que depuis, bon, ça date, hein, ça commence à faire longtemps qu'il y a de moins en moins de gens syndiqués, nan, mais c'est peut-être aussi parce que en fait ils sont pas, c'est des vieux qui proposent des vieux sujets, c'est-à-dire que en fait les quelques copains que j'ai qui sont qui organisent des formations syndicales, dès que ils le font pour parler du sens du travail, et ben c'est assez impressionnant comme la parole se libère et comment en fait les gens ont envie de parler de ça et souffrent au travail par rapport à ça. Et donc même si je suis d'accord aussi que je sais pas comment mobiliser ça, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là qui est assez... alors pour l'instant, le problème, c'est que les gens se disent « Ouais, mais il faut bien bouffer. » Donc en fait, ils sont critiques de leur travail, mais ils continuent à y aller, quoi. Mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, de...
Ouais, moi, c'est ça que j'aurais eu envie de dire aussi. Je partage un peu ton doute, même si je partage aussi le fait qu'il y a quand même un mouvement de remise en cause assez général, qui est générationnel sans doute, voilà, qui n'existait pas il y a plusieurs dizaines d'années. Mais de fait, moi je me reconnais vachement, disons, mon parcours perso, dans ce dont il parle. Je suis un peu un ingénieur défroqué, j'aime bien dire ça comme ça. Et en gros, ça m'est arrivé assez souvent, quoi, de me retrouver dans des environnements de travail où j'ai un petit manque de sens, on va dire. Et donc de partir en disant, voilà, moi, je trouve que ça n'a aucun sens ce qu'on fait là, je vais aller faire autre chose, quoi, X ou Y, la radio, d'autres trucs plus indépendants, disons en informatique, etc. Et à chaque fois, en fait, tu te retrouves assez seul. Des gens qui passent à l'acte, il n'y en a pas tant que ça. Et quand tu le fais, après, tu vas avoir des gens qui défilent dans ton bureau et qui te disent « Ah ouais, c'est courageux » ou « Ah ouais, c'est bien de faire ça », machin. Donc en fait, ils partagent le manque de sens, etc. Mais pour eux, c'est de l'ordre de l'impossible ou de... Voilà. Donc il y a des histoires de thunes, hein, ils ont un prêt, c'est des métiers très bien payés pour pas faire grand-chose, donc il y a peu d'intérêt, on va dire, dans la société du salaire capitaliste à les lâcher, quoi. C'est difficile de faire mieux au niveau taux horaire, quoi.
Voilà, et tu parles des ingénieurs.
Ingénieur, cadre, machin.
Pas connu ce genre de boulot.
Ouais, je fais des grandes généralités, mais il y a aucun intérêt, je pense, concret, quoi. Les gens, typiquement, tes proches vont te dire, mais pourquoi t'as fait ça, tu vois.
Ouais.
C'est ça que ça veut dire, que ça n'a pas d'intérêt logique ou machin. Et donc, ouais, c'est partagé, ça a l'air très partagé même, hein, parce que les gens qui t'en parlent, c'est quasiment tout le monde, à partir d'un certain âge, quoi, disons. Et par contre, le fait de passer à l'acte, ouais, ça n'a pas l'air si général que ça, par contre, quoi.
Et ce que je trouve intéressant justement là avec Frio, c'est qu'il propose, j'allais dire, une utopie positive, et on va dire pas juste d'être anticapitaliste, mais de réhabiliter le mot communisme, qui est là un peu défini, un peu d'après Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, donc comme mouvement réel qui abolit l'État actuel. Et en partant aussi des déjà-là communistes, qu'il appelle par exemple les conquêtes de 1946 avec le régime général de sécurité sociale, avec aussi en point tactique et comme pratique militante, comme on disait tout à l'heure, la réappropriation de la production dans la grève et non plus quelque chose de défensif. Et donc je ne sais pas à quel point la pensée de Friot, c'est, comment dire, il y croit ou il veut juste amener ça dans le débat pour que ça nourrisse justement cette vision un peu stratégique sur un plus long terme. Mais donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important de populariser un peu cette pensée. Et je trouve qu'elle fait aussi une synthèse entre, quelque part, entre marxisme et anarchisme. Donc, avec... cette valorisation du micro, c'est-à-dire toutes les expériences, notamment qu'on peut voir dans des mouvements autonomes, anarchistes, aussi écologistes, donc avec les créations de lieux, tout ça, d'autonomie, ce qu'on pourrait appeler tous les à côté du capitalisme. On pourrait dire avec Lordon que c'est pas suffisant, qu'il faut quelque chose de macro, comme dit Frio aussi. Et donc, avec au niveau macro, même s'il dit, Frio, qu'il ne faut pas attendre la prise du pouvoir d'État, sa pensée basée sur l'extension des cotisations issues du travail pour financer, pour mettre en sécurité sociale de plus en plus de production, donc ça peut être alimentaire, culturel, logement, etc., on a du mal à l'imaginer comment le faire sans, gagner les élections, pouvoir changer la loi, ou alors les accords de branche. Donc là, on n'est plus sur le terrain syndical. Et vu la faiblesse, justement, qu'on disait du mouvement syndical, la réalisation concrète et prochaine de ce que dit Friot paraît quand même improbable.
Oui, en attendant, ce qu'on a toujours vu, nous, là-dessus, c'est plutôt un recul organisé donc, par l'État, secondé par les organisations syndicales.
Voilà. Et on, d'ailleurs, EFO serait en train de pencher encore vers la CFDT. Bon, on a pu voir ce qui s'est passé à Brest, d'ailleurs, où ils ont appelé les flics pour virer Marc Hébert des locaux de Force Ouvrière, et, des gens qui se sont dit ouvertement de l'anarcho-syndicalisme. Donc voilà, moi, c'était un peu ce que j'avais à dire. Mais aussi sur... bon, j'ai pris quelques notes, là, quand ils parlent de classe révolutionnaire. pareil, j'ai dit... Bon, là, on est un peu dans le vœu pieux aussi, donc de gens qui ont marre des intermédiaires, de la perte de technicité. Après, on a pu voir, notamment, avec les hospitaliers. Certains ont parlé d'auto-organisation pendant la période Covid... et en foutant au tapis les ARS et tout ce qui était la paperasse et tout ce qui était trop managérial et administratif. Bon, ça peut donner un espoir de ce côté-là. Et il parle également de perte d'hégémonie de la classe bourgeoise sur le travail. Bon, voilà, bon, ça se discute aussi. Mais,
Moi, sur sa stratégie, on va dire, militante, ce que je... Là aussi où je pense qu'il a raison sur plein d'aspects, c'est que en fait, c'est aussi reprendre un imaginaire, quoi. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'on est toujours donc sur des luttes défensives. On se fait attaquer de partout et on dit ah, rendez-nous quoi, ce que vous nous avez pris. Et qu'on n'est pas sur... on se raconte notre propre histoire comme une succession de défaites. Et du coup, moi, j'aime bien là, aussi l'idée de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on voulait faire en 46, par exemple, reprendre, et c'est ça qu'on veut, et qu'on veut étendre, etc. Nanana. Et donc, c'est la version positive, en fait. Et du coup d'affirmer de nouveau syndicalement ou via d'autres voies si des partis veulent s'en inspirer, allez-y, de reprendre cet aspect-là en étant plus ouais, sur un côté je suis toujours en train de me défendre mais j'affirme que c'est ça qu'on veut et en fait que cette idée-là, elle puisse re-rentrer du fait que... Parce que un des constats aussi, c'est qu'on on est tous quand même beaucoup dans un truc très fataliste, en fait. Le capitalisme, c'est presque comme un espèce de truc, un espèce de démon impossible à combattre. Je sais pas, voilà.
Que fait Saint-Georges? c'est juste justement un imaginaire positif à créer sans doute pour pouvoir passer le pas, rentrer dans les actes et tout. Et la question c'est ça, c'est les gens qui remettent en cause le sens de leur travail, ils vont dire ok, je vais démissionner quoi, typiquement, très bien. Mais du coup, je vais bosser où comme communiste quoi. Enfin, tu vois, comme anarchiste, enfin en tout cas avec une organisation du travail que j'ai décidé, etc., etc. Mais où ? Comment ?
Ouais.
Pour moi, c'est, enfin, tu vois, je sais pas comment, Lionel, tu mets le doigt sur le truc. C'est en fait vu que la capacité d'organisation générale, on va dire, mise en place après la guerre et tout, le capital a fait main basse dessus, en gros, pour résumer, que ce soit l'État, les centrales syndicales, etc. Ben, où tu vas maintenant, quoi ? Même fonctionnaire, aujourd'hui, c'est attaqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis être fonctionnaire de Macron, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin...
Et ça a commencé avec De Gaulle, il faut bien le dire aussi, dès 47, et puis en 67 aussi, où la sécurité sociale... n'a pu être géré majoritairement par les travailleurs. Voilà, parce qu'il y a eu un encensement dans les médias, justement, de Charles de Gaulle tout cet été. C'était une idole. C'était très mal vu de ne pas aimer le grand chien. Et je voulais dire juste, c'est par rapport à tous ces différents niveaux d'agissement politique, bon, il y a une pensée qui peut paraître assez bateau, mais bon, qui peut être bonne à dire quand même, c'est de... je crois que c'est un Wright ou un truc comme ça, qui disait, enfin, en gros, que la gauche, souvent, ou le mouvement socialiste au sens du XIXe siècle, n'avait pas su articuler trois niveaux qui étaient la prise du pouvoir d'État, le niveau insurrectionnel et aussi tout ce qui était les à côté du capitalisme tout ce qui peut être les productions en dehors du capital. Et donc moi, je pense que ça peut être important de ne pas opposer forcément ces niveaux-là. Après, même si c'est jamais très réjouissant, les élections, tout ça, voilà. Mais bon, en France, tu as quand même l'élection présidentielle qui surdétermine beaucoup de choses. Et par rapport à l'imaginaire, ouais, il y avait le truc de Gramsci qui était l'hégémonie culturelle avec la guerre de position à mener. Et bon, voilà, moi personnellement, je pense que tout ce qui va à peu près dans le bon sens doit être mis en avant et pas chipoter sur « Ah non, je suis pas d'accord avec tel détail », mais c'est faire monter le niveau général en fait d'un truc qu'on pourrait qualifier, je sais pas moi, de gauche ou de socialiste au sens du XIXe siècle encore, ou rouge ou noir, tout ce que vous voulez. Mais vraiment contrer en plus cette hégémonie droitière là qu'on a vu dans les médias cet été, quoi. Et par rapport aussi à tout ce dont parle Friot, c'est vrai qu'avec il y a quand même des possibles effondrements à venir, notamment économiques, financiers, écologistes, pandémiques, etc. et tout ça qui s'interconnecte, qui pourrait on l'espère, favoriser quand même l'émergence de discours autres que juste il faut couper la verrue financière du capitalisme, quoi. Mais aller directement au mode de production, au travail, à comment on organise les choses, qu'est-ce qu'on produit, comment, pourquoi, etc., quoi. Et tout ça viable écologiquement, quoi.
Ouais, la santé, de manière générale, écologiste aussi.
Et des chômeurs, il risque d'y en avoir un paquet en plus, donc voilà. Ça n'a pas eu le moment de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au chômage si on sait qu'il n'y aura pas d'emploi. Ouais. Donc peut-être qu'il faudra aller vers ces gens-là aussi.
Alors, du coup, je rappelle juste le livre, c'est donc écrit par Judith Bern... Enfin, vas-y, tu me
donc
diras mieux.
Le livre, c'est Un désir de communisme, qui est la transcription de trois conversations de Bernard Friot avec Judith Bernard, qui est la fondatrice du site Hors Série. Et donc, ces entretiens qui sont parus sur Hors Série, donc qui publient des vidéos, bon, c'est payant, mais y a des bonnes choses. Enfin, il y a beaucoup d'intellectuels qui passent sur ce site.
Ouais.
Aux éditions textuelles.
Vas-y. Ah non.
Non, pour la suite. Vas-y, fais.
Tu voulais parler de quelque chose ou non, c'était... parce que moi, j'avais un dernier truc à parler. Je n'ai pas compris ton signe. on a fini là-dessus ? Ouais. Donc ouais, je voulais juste parler d'un truc que j'ai regardé sur Arte qui s'appelle « Quand l'histoire fait date ». Et donc c'est Patrick Boucheron qui revisite l'histoire au travers de grandes dates. Alors c'est les grandes dates inscrites dans les manuels scolaires. Donc genre... je fais un quiz. 1453.
Constantinople et fin de la guerre de 100 ans.
Moins 52.
Bataille d'Alésia, je sais pas.
Yeah. 1789.
Ça, je sais pas.
Ouais, moi non plus.
Ah merde, il y avait un piège parce que c'est pour le serment du jeu de paume. C'est pas la Bastille. 1990. Libération de Nelson Mandela. Ou encore 622, l'an 1 de l'islam. Bon, voilà, il y a plein. Il y en a 18 en tout, et il y en a d'autres qui vont sortir prochainement. Donc je crois qu'on peut les regarder encore jusqu'à novembre prochain. Enfin, ils sont en ligne pour un moment. Et en fait, ce que j'ai trouvé pas mal, donc chaque émission dure un peu moins de 28 minutes. Et en fait, donc ça rappelle à chaque fois ce que c'est l'événement tel qu'il est raconté dans et que tel qu'on le aussi, on s'en souvient en fait. Donc c'est le côté mémoire collective. Qu'est-ce qu'on raconte autour de cet événement? Et après, il creuse un peu en essayant de dire bon, qu'est-ce qu'elles disent vraiment les sources? Et du coup, c'est intéressant parce qu'il parle aussi du métier d'historien et comment les sources peuvent causer. Et donc souvent, on se rend compte que il y a quand même un sérieux décalage entre ce qu'on se raconte voilà, et la réalité de l'événement. Mais aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est... Attends, j'ai perdu mon fil. C'est oui, c'est pourquoi cette date fait date. Il se pose à chaque fois la question de pourquoi en fait on a sélectionné quelque part cette date pour en faire quelque chose d'historique et qui est en tout cas dans notre mémoire collective de français. Parce que c'est, et c'est assez intéressant parce que des fois on se rend compte que bah, c'est au XVIIIe siècle. Que la date de moins 72, je sais pas, a été revigorée. Et c'est, en fait, c'est en comprenant le contexte de remettre cet événement au goût du jour qu'on comprend l'idéologie qu'il y a derrière aussi. Et donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait aussi voilà, la donation de Constantin, par exemple, qui est en fait un faux, mais qui reste dans notre mémoire collective, et pourtant il a été, enfin bref, voilà, donc c'est plein de petites anecdotes comme ça, et ça se termine, c'est toujours aussi la même structure en fait, et il y a à chaque fois vers la fin de l'émission, il s'est passé quoi ailleurs dans le monde à cette date-là, et ça c'est assez chouette aussi, on voit en Asie, en Afrique, voilà.
C'est une quinzaine de minutes à chaque fois,
c'est ça ? 28, enfin c'est 28 minutes qui a marqué, c'est plutôt 26-27 minutes chaque... Voilà, vous pouvez les trouver en accès libre sur Arte.
Et c'est Boucheron qui fait ces émissions ?
Oui.
Mmh. Ouais, c'est toujours bien en plus d'entendre sa voix, son humour, enfin il est fin quoi.
Tant qu'il parle que d'histoire, il est parfait.
Ouais, c'est ça. Ah ouais.
Et,
tant qu'à y être, Patrick Boucheron, il a une chaire d'histoire au Collège de France et ils sont... plusieurs, dont lui, a organisé la rentrée du Collège de France les 22 et 23 octobre. C'est un colloque organisé. Il y a une trentaine d'intervenants de partout dans le monde, des historiens surtout. Et ça interroge la notion de civilisation. Donc là, ce sera en direct sur le site du Collège de France. Comme, et c'est bien de le redire, il y a comme la plupart des cours sont accessibles en vidéo, gratuitement sur le site du Collège de France.
Bien, on termine cette partie ?
Ouais, j'avais un dernier petit truc, parce que pause musicale après.
Ouais.
C'est un docu qui s'appelle Clasher l'ennui. Donc c'est un docu que tu peux retrouver sur YouTube, c'est diffusé par l'ABCDR du son. Et ça raconte l'histoire de Dégaine ton style aux Ulysses. Donc les Ulysses, c'est une cité champignon, quoi. C'est, tu prends une forêt, t'étales tout, et puis après tu construis une ville, quoi, dans les années 70, je crois. Et donc il y a, bon, on peut imaginer, il n'y a rien aux Ulysses, quoi. Le documentaire raconte un peu ça, et donc, l'histoire de la ville. Et donc après, Dégaine ton style, c'est des battles, les battles de rap, quoi. Donc c'est dans les années 90. Quand les gamins se mettent à regarder MTV, enfin voilà, tout l'influence hip-hop américaine, et ils se mettent à rapper et ils se mettent à organiser donc Dégaine ton style. Il y en a eu 3 donc dans les années 90, et donc il y a aussi, c'est un gros travail d'archives, il y a pas mal d'archives, donc vraiment des battles Dégaine ton style, c'est assez énorme. Et ben c'est des événements qui ont été importants quoi, dans l'histoire du rap français. Et donc ça revient dessus, c'est un documentaire d'1 heure, réalisé par Yveline Ruault et monté par Étienne Miguez. Et donc voilà, à la fois l'histoire des gens qui ont fait Dégaine ton style, donc soit les personnes qui l'ont organisé, les personnes qui ont participé, les personnes qui ont été autour, dans le public ou autour, disons, dans les Ulysses. Et aussi ben, l'histoire des Ulysses à travers ces battles et les parcours des gens. Super chouette, j'avais entendu parler du documentaire sur le Bondi Blog, qu'appelle ça le documentaire rap de l'année. Donc c'est sorti en juin 2019, hein, j'attendais la reprise de la Midinale pour en parler. Et je vous le conseille à fond, on va écouter un petit son qui clôt le documentaire.
Et faire une pause musicale, voilà. Du coup.
Et après, je sais pas, il y aura sans doute autre chose musicalement, mais ça, c'est la Snob qui sait.
Ouais, il y aura, je sais pas, j'hésite encore. On verra.
Ok, clasher l'ennui, ça s'appelle.
C'est encore bien plus important que la vie et la mort.
On voulait juste être utile, peu important. D'être parfait, c'est le cas de le dire. Tant d'obstacles à braver, donc on garde le rythme. On part de rien, quelques frères des barres de rire. Un art de rue qui terrasse ton mal de vivre. Ultime, on était 8, en fait on était 1000. Toute la ville s'illumine, le soir te dégaine ton style. Premier volet, deuxième volet, on a fait le taf. Le succès ne s'achète pas, à ce qu'il paraît on a des phares. Record d'influence, mais la mairie n'apprécie pas trop. Ça laisse des cicatrices, à vouloir montrer c'est qui le patron. Ça me fait plaisir quand je vois Bobby bosser avec les jeunes. S'en sortir c'est possible, si vous voulez je vous ramène des preuves. Des chances de réussite aux Ulysses, c'est pas ce qui manque. Fascinant, on ne pratique pas l'abstinence. On a des exemples, des footballeurs, des artistes, des jeunes entrepreneurs qui finiront chef d'entreprise. Si tu veux faire dans le crime très peu, esquive la faucheuse. Que tu sois blindé ou fauché, ce sera toujours à cause de messages positifs, même si c'est juste un message. Un PKR, toujours un PK.
On a posé brique sur brique pour construire un putain de building. Pour unir toute la ville, fallait plus qu'une vie. La mairie nous ignore pour un dossier classé sans suite, j'insiste. On a pris le mic, c'était juste pour clasher l'ennui.
Lâcher l'ennui, on lâchait pas l'envie. Inspiré par les destins de Ebra Henry. Bouge pour les tiens, de janvier à décembre. Si on n'a pas le même sang, nous attend plus pour faire une descente.
Right. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on.